Direct en jeu, la radio insolite, notre partenariat d'amour avec Charlotte et Chacom Diff nous permet d'avoir du théâtre tout au long de l'année, et pas uniquement au mois de juillet en Avignon. Et là, je suis très content d'accueillir Blandine. Bonjour Blandine.
Bonjour.
Alors Blandine, j'ai deux manières de t'appeler. J'ai d'un côté ton nom, Blandine Geneste, et puis j'ai aussi trouvé qu'on t'appelait Blandine Geneste de Givesse.
Oui, c'est mon nom.
D'accord.
Voilà. C'est mon nom. C'est mon patronyme. Mais bon, voilà, parfois pour faire plus simple.
D'accord.
Je simplifie. Voilà.
Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que là, j'ai affaire à une philosophe, on va dire. Parce que c'est vrai que tu as conçu un spectacle assez important. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand je lis la présentation de ton parcours, il y a une phrase que j'ai adorée, c'est « Choisis la scène comme un espace de parole et de liberté privilégié pour dire l'intensité d'un rapport à la vie.
Wow. » Ah oui, c'est tout à fait exact. Parce que la vie sur scène, c'est la vie en grand, c'est comme une survie. Voilà.
Ah d'accord, ok, carrément.
Oui, c'est une survie, oui.
Qu'est-ce qui t'a donné?
Mais je pense qu'il y aurait beaucoup d'interprètes, comédiens, musiciens qui le formuleraient comme ça.
Ouais. Mm-hmm, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie, comme manière, dès le départ, de faire des études de lettres et de musicologie?
C'est un goût de l'enfance, en fait. J'aimais bien réciter des poésies à l'école. J'aimais bien réciter des poésies, courir et chanter. Voilà.
D'accord. Tu es très marqué
la
classe.
La course aussi.
La course à pied.
Oui, la course à pied.
Ah d'accord, carrément. J'ai l'impression que tu es très musique classique.
Ah oui, mais pas que. Non, c'est pas que je suis très. C'est que, en fait, je viens d'une famille où il n'y avait pas de musique. Et puis, à la faveur de quelques vieux disques et aussi de la chorale de l'époque, la chorale de l'école. En fait, j'ai découvert Jean-Sébastien Bach à 7 ans, voilà, parce qu'on m'a donné des parties de chant à plusieurs voix à chanter quand j'étais petite, et ça a été une espèce de révélation. Et à l'adolescence, j'ai pris des initiatives, je suis allée au concert toute seule, et à la fin, j'ai même été chercher mes parents, enfin j'ai amené ma mère au concert. Voilà, donc c'est vraiment une espèce de choix, voilà, de quelque chose qui m'a transporté. Allô?
Oui, t'inquiète pas, voilà. Je t'écoute.
Et c'est vrai qu'à l'adolescence, enfin, je veux dire, autour de moi, tout le monde écoutait la musique des années 80, hein, que j'ai entendu aussi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'étais triste parce que parfois j'arrivais pas à partager mon goût. Pour Bach ou Chopin, avec mes copains, ouais. Voilà.
C'est un peu différent, c'est vrai, les années, la musique des années 80, puis la musique classique.
Ouais, après j'ai une formation lyrique, donc j'ai fait un institut d'opéra, j'ai interprété un certain nombre de rôles sur scène, et puis j'ai fait beaucoup de récitals, mais j'ai aussi un goût pour la chanson française qui m'a bercé, donc ça... ça m'a fait ouvrir aussi. J'ai beaucoup interprété Prévert Cosma, Barbara, Gréco, enfin tous ces gens-là aussi.
D'accord.
En parallèle avec le répertoire classique.
D'accord. Tu es soprano, c'est bien ça?
Oui, je suis soprano, mais un soprano plutôt assez central, pas très aigu, plutôt une voix presque mezzo.
D'accord.
C'est-à-dire qui n'est pas. Je ne fais pas partie des catégories les plus aiguës du répertoire lyrique.
D'accord. Qu'est-ce qui te fait passer de la scène et du chant à la conception de spectacle?
À mon amour des mots. Et la conception, elle vient très vite. En fait, mon premier spectacle, c'était un spectacle... de jeunesse, si je puis dire, mais c'est 1987 à René Char. Bon, j'avais une vingtaine d'années. Et René Char est mort et j'adorais sa poésie. Et voilà, donc dans un petit village des Alpes de Haute-Provence où il avait enfoui les feuillets d'hypnose qu'il avait écrits pendant la guerre. Donc c'était à Serres-Basalpes, aux Alpes de Haute-Provence, où je dirige maintenant un festival des Nuits de Carluc, tous les mois de juillet. Eh bien, le maire nous a dit allons-y. Et donc, il y a eu une forme de, avec des amis musiciens, pianistes, violonistes, etc. Et c'était consacré à René Char, et c'était le chant de la pierre, ça s'appelait. Voilà. Et depuis, tous les ans, il y a eu de nouvelles créations avec la compagnie Musique en Perspective.
D'accord.
Quant à Ritzos, c'était le hasard de la rencontre d'un livre, Les vieilles femmes et la mer, parce que je ne connaissais pas du tout Ritzos, qui est donc grand poète grec, peut-être le plus grand du XXe siècle. Moi, je ne suis pas une helléniste et je ne suis pas une spécialiste de la Grèce. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment férus. Récemment, j'étais en Grèce et j'ai été transportée comme tout un chacun de découvrir ce pays. Mais c'est un livre, donc Les vieilles femmes et la mer, et c'est une pièce de théâtre qui est un dialogue de femmes qui parlent sur le rivage. Et c'est absolument magnifique. Et ce livre que j'ai trouvé quelque part, je ne sais plus, dans une bibliothèque, m'a fait découvrir Ritzos, sur lequel je ne savais pas grand-chose, même je ne savais rien au départ. Bon, après, j'ai appris sur son profil très exceptionnel, à la fois de résistant politique et d'homme engagé, puis de grand poète. Je peux en parler là un peu, il y a un petit peu de temps.
Ah bah oui, de toute façon, moi, grâce à toi, je l'ai découvert, puisque j'ai découvert que c'était quelqu'un qui était assez réputé, qui a beaucoup travaillé avec Mikis Theodorakis. Il a eu un certain nombre de prix très reconnus, mais il a su se positionner par rapport à tout ce qui se passait en Grèce, puisqu'il a vécu au XXe siècle. Donc vas-y, oui, je te laisse en parler avec grand plaisir.
Et bon, bah, c'est quand même un homme qui a fait... à plusieurs reprises de la prison, enfin, il y a eu une vie quand même terrible, parce que nous, on ne connaît pas bien ça, cette guerre civile, la guerre civile grecque après la guerre mondiale, qui a été très terrible, et voilà, il a été emprisonné dans une île, dans des conditions... Donc, à plusieurs reprises, il a fait de la prison, donc c'est vraiment un engagement de résistance. On n'a pas connu de... ces longues périodes de dictature en France, donc peut-être qu'on ne connaît pas le prix de la liberté non plus, dit en passant. Lui, il a mêlé sa vie aussi, parce qu'il a eu, il a eu une famille qui a eu presque un destin grec, un destin tragique avec un père qui a fait faillite. Voilà, une histoire de choses lourdes. Traverser cette vie en transformant tout ça par la poésie et par un engagement exemplaire. Et pour les Grecs, c'est vraiment une figure. Alors nous, évidemment, si on ne parle pas grec, on ne goûte peut-être pas les saveurs de la langue. Mais la portée universelle, bon, c'est quelqu'un de très fort comme Neruda, comme Charles. C'est vraiment une figure universelle de la liberté, de l'engagement. Et puis, très au-delà, enfin, c'est vraiment, comme dans le texte dont nous lirons des extraits, la relation à la vie, à la mort, à l'amour, et puis à l'absence, et à la parole, très fortement, parce que, bon, on parle beaucoup de femmes en ce moment, je sais pas si on parle beaucoup de leurs conditions, je sais pas si on parle beaucoup de leurs paroles. C'est-à-dire, moi, je me souviens dans ma famille, une famille bourgeoise, les femmes parlaient beaucoup moins, en fait. Il y avait une parole qui était, je dis ça sans récrimination, mais il y avait une parole qui était quand même masculine, et je pense que dans le monde méditerranéen, les femmes des marins partis en Grèce, elles parlaient peut-être en eux, mais entre elles, mais il y avait aussi, dans le temps... le rythme de cette vie dure, il y a des paroles qui se taisent, qui marinent, qui ruminent, puis qui finissent par se tarir. Et c'est aussi ce silence des femmes grecques qui est dit par Ritzos. C'est très beau, sur la colère, sur sur la mémoire, sur tout ce que... C'est pas forcément dans le sens de, du ressentiment ou de l'acrimonie, mais c'est aussi tout ce que les gens dans une vie ont traversé, et voilà, et essayer de garder un regard vif, acéré et porteur d'espoir sur le quotidien, sur la nature, sur les gens, sur les enfants. Voilà, c'est le propos de ce livre.
D'accord. Le spectacle, comme s'il ne manquait rien, va se jouer au théâtre de l'Épée de Bois à la Cartouche à Paris du 23 mars au 2 avril. Et j'aime bien la présentation parce que tu te remémores le vers de Yanis Ritsos, comme s'il ne manquait rien alors que tout manquait. Alors c'est assez original quand même.
C'est de là que c'est parti parce que Jean-Pierre Schneider, qui est le scénographe, qui est peintre, scénographe du spectacle, a consacré un long moment de son travail récent à la peinture de grandes jarres. Voilà, la jarre, c'est l'huile, mais c'est aussi peut-être la symbolique du temps, c'est plein, c'est vide, c'est un méditerranéen. Et en remontant ce grand jar, je me suis remémoré ce verre de Rizzo, comme si on ne manquait rien. Et en fait, Jean-Pierre a inscrit ce verre sur ses toiles, et c'était il y a 2 ans, je crois, et pendant le confinement, je crois. Et je lui ai dit, mais tu sais, c'était un verre de Rizzo. Effectivement, c'était dans Les Vieilles Femmes et la Mort. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait remonter, parce qu'il y avait déjà eu une ébauche il y a une dizaine d'années, autour de ce texte. Et en fait, comme s'il ne manquait rien alors que tout manquait, c'est vraiment, pour moi, c'est la symbolique de la vie. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où on est comblé de biens matériels, on est comblé en fait, en tout cas. Pas forcément de tout, mais en tout cas de la guerre, des tremblements de terre. Mais le désir humain, le désir de se développer, d'apprendre, de s'ouvrir, de rencontrer les autres, de se déplacer, c'est quand même ce qu'il faut la vie. Et ça, par contre, c'est difficile, c'est plus compliqué. Alors, voilà, la peinture de Jean-Pierre, elle est aussi à l'origine du spectacle. Il y a une création vidéo qui comprendra des extraits aussi de l'œuvre picturale et puis de très belles images un peu abstraites de l'univers qui sont un continuum qui accompagne la musique et la parole. Dans le spectacle. Donc c'est comme une espèce de méditation musicale, théâtrale et picturale ensemble. C'est pour ça que c'est vraiment un spectacle transversal. Ça dure pas longtemps, ça dure 1 heure parce qu'il y a beaucoup de choses et que les protagonistes sur scène, mes deux collègues musiciennes, violoncellistes et pianistes, Marina et Liel, et Véronique Menuet soutiennent aussi et participent à la théâtralité du spectacle. Donc on est vraiment, avec Christiane Corté, la comédienne, et les 4 personnes qui portons le propos dans les images de Jean-Pierre. Voilà, de Jean-Pierre Schneider, lequel aura un expo à Paris à la Galerie Vert à partir du 16 mars, sur le même thème, comme s'il ne manquait rien, donc Galerie Univers Colette Scola. Donc c'est un double événement, un événement en relation aussi avec une petite peinture.
D'accord. Pourquoi tu n'as pas décidé d'aller sur scène toi-même ?
Moi j'y vais. Ah, je suis interprète soprano et je.
Ah d'accord, pardon.
J'ai dit aussi une partie du texte. Ouais.
D'accord.
Ah, okay. C'est pas clair dans le dossier, je sais pas.
D'accord.
Si, voilà, on est ensemble. Avec Christiane Corté, alors Christiane Corté, qui est une magnifique tragédienne, qui a travaillé avec Audrey J, avec des grands, Et voilà, qui a une belle voix grave, et qui est tout à fait là pour dire ce texte grec, qui n'est pas, qui ne sommes pas antiques, hein. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils vont écouter du pop-up. Ils vont écouter un texte moderne, le texte de Rixos. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de découvrir la condition des femmes grecques à l'époque, parce que bon,
Ah, mais
ça a
c'est
quand
à
même.
l'époque ou maintenant, parce qu'on peut dire que.
J'allais te demander, est-ce que ça a évolué?
Ah, je sais pas, je suis pas spécialiste de la Grèce, mais je vois modestement, comme tout le monde, au journal de 20 h, la condition des femmes dans les zones de la Méditerranée, qui sont de la Syrie à la Turquie, à l'Iran. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la condition des femmes sur une majorité, dans une majorité de la planète, je pense. Donc c'est, je pense que ça c'est vraiment toujours vrai, en fait, d'être là pour garantir la vie, en fait, pour la prolonger, pour la sauver, quoi.
J'allais dire, ça ne se joue que du 23 mars au 2 avril.
Oui.
Est-ce que c'est déjà prévu dans d'autres endroits? Est-ce qu'il y a une
Ouais,
tournée
c'est
qui est...
prévu à la mairie de Paris Centre le 23 mai à 19 h 30, donc dans le cadre de la culture avant toute chose. C'est prévu aussi dans les festivals dans le sud et à Belle-Île-en-Mer la dernière semaine d'août.
D'accord. Ok, donc c'est un spectacle qui va se lancer. Ça fait du bien de se dire, allez hop, j'allais dire, ça reprend d'une manière très conséquente le spectacle.
Oui. Pour l'instant, moi, je suis déjà dans la perspective de ce qui va arriver à l'Épée de Bois, de la dizaine de jours, voilà, pour traverser et vivre avec cette forme et ce texte fort, en fait. Et en fait, c'est bien parce qu'il nous berce et ça nous aide à vivre. Enfin, moi, ça m'aide à vivre au quotidien. Ouais. C'est vrai, je pense que ouais, la lecture de, enfin pour moi, la lecture de mon texte,
Ben
c'est
disons que ce qui est intéressant, c'est quand on vient voir la pièce de théâtre, on peut aller plus loin en découvrant justement l'artiste.
exactement. Alors, je pense que Rizzo, il n'est pas connu en France du tout, hein. Je suis pas un exemple, mais je le connaissais pas du tout. La traduction Fata Morgana par Bruno Roy, malheureusement, c'est une très belle traduction. Et c'est très agréable à lire sur sa table de chevet quand il y aura les livres. Et on peut prendre des petits extraits. C'est une très belle langue. Voilà. Et ça, je pense que les gens vont découvrir. J'espère qu'ils partiront avec les livres. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup d'autres œuvres de Rixos, des recueils de poésie. Là, tout de suite, je ne peux pas citer. Voilà.
Ok, donc le spectacle s'appelle Comme s'il ne manquait rien. C'est du 23 mars au 2 avril au théâtre de l'Épée de Bois, la Cartoucherie à Paris. Si vous voulez avoir des renseignements, il vous suffit d'aller sur le site internet épéedebois.com et à ce moment vous aurez tous les éléments. Merci Blandine de nous avoir présenté tout cela. Ça
Merci
donne envie de
beaucoup,
découvrir autre chose.
merci. Merci.
Bonne journée à toi.
Bonne journée.